Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi, and I got my blackjack gum here, and I got that feeling. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there.
Oui, non, non, vous vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
Don't ever feed him after midnight.
She's alive!
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
How about that? Well, nobody's perfect.
Qu'est-ce que c'est? C'est pas quoi faire.
Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne.
Vers l'infini et au-delà!
Ce soir, les joyeux lurons d'Extérieur Nuit célèbrent le format court dans le cadre de la fête du court-métrage qui se tiendra partout en France et dans le monde du 20 au 26 mars prochain. Et pour en parler, nous sommes ravis d'accueillir au studio ce soir le parrain de cette édition 2024, un acteur que l'on aime beaucoup ici, qu'on a pu découvrir dans Patient de Mehdi Idir et Grand Corps Malade ou encore dans Trois Nuits par Semaine de Florent Gouëlou. Bonsoir Pablo Poli.
Bonsoir.
Ce sera également l'occasion de discuter avec vous d'un film qui nous a beaucoup émus et dont on a parlé la semaine dernière à La Joie de Jérôme Bonnel, dont vous partagez l'affiche avec l'actrice Amel Sharif. Film par ailleurs toujours disponible sur la plateforme Arte.tv. Si l'odeur du café est absente et les commérages sont quant à eux monnaie courante dans le studio d'Extérieur Nuit, c'est pourquoi nous nous devions de parler de La Salle des Profs, dernier film du réalisateur allemand Ilker Satak, revenu bredouille des Oscars il y a quelques jours, où il était nommé dans la catégorie du meilleur film international. Puis, l'équipe d'Extérieur Nuit posera ses valises en Italie, dans la ville éternelle d'abord, où devant et derrière la caméra, Paola Cortellesi nous invite à suivre les tribulations de son héroïne Delia, dans son premier long métrage en tant que réalisatrice, Il reste encore demain. Enfin, toujours sur la botte, nous nous rendrons dans la plaine du Pô, terre natale du célèbre pilote automobile Enzo Ferrari, et fondateur de la firme éponyme dont l'histoire est désormais portée à l'écran par Michael Mann pour Amazon Prime, avec entre autres Adam Driver et Penelope Cruz. Extérieur Nuit, c'est parti.
Et dans un revirement de situation, merci Alban pour cette magnifique introduction. Elisabeth serait fière de toi depuis l'EHPAD où elle nous écoute. je passe la parole à Laurent d'abord, ou non, le box-office de Paris. Qu'est-ce que les gens sont allés voir pendant cette semaine au cinéma? Rita, aujourd'hui tout est un peu chamboulé car vraiment c'est une émission particulière sous le signe de la maladie, du court-métrage et de la joie, de la bonne humeur, n'est-ce pas Rita? C'est donc, que sont allés voir les gens cette semaine?
Eh bien, comme chaque semaine, ils ne nous écoutent pas, parce que le premier film pour la deuxième semaine consécutive, c'est Dune, partie 2.
Ouais, ils nous ont un peu écoutés quand même.
Voilà, que je n'ai toujours pas vu, mais à vous entendre, c'était pas non plus la folie de l'année.
Parce qu'on est vraiment très très
aigri.
Oui, par ailleurs, voilà. Oui.
En deuxième position, on retrouve pareil un film que je ne comprends toujours pas, c'est Une vie avec Hopkins, ce bon vieux Hopkins, qui confirme qui va voir les films en salle au cinéma en France, c'est très triste. En troisième position, on a un film qui, pareil, m'étonne énormément dans sa position ici, étant donné que c'est Bolero, qui est en première semaine cumule 178 000 entrées. Qui est allé voir Bolero? Pas nous.
Et bah écoute, c'est vraiment pour moi la version française de... Ah bah Pablo Poli est allé voir Bolero. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot? Le truc vraiment, le traquenard. Non mais est-ce que tu...
Putain,
et en numéro 4, on retrouve mon meilleur ami, mon frère. Mon Rasta frère, mon Bob Marley, numéro 4, le pire film de cette année qui continue.
Ça continue.
173 000 entrées en quatrième semaine, je crois, pour un cumul à beaucoup trop d'entrées, je ne sais même plus, mais passé le million.
Oui, il a passé le million. Globalement, c'est un carton... Ouais. Honorable au box-office mondial. Et à partir de là,
c'est vraiment n'importe quoi. On a 14 jours. Maison de retraite 2, 14 jours pour aller mieux, Cocorico, enfin c'est.
Mais là, on est très content, c'est que dans ce top 20, Anatomie d'une chute continue de réaliser des entrées, ce qui nous permet de dire que Cocorico, le film a remporté l'Oscar du meilleur scénario original ce week-end à Los Angeles, avec Messi dans la salle qui applaudissait tel l'énorme good boy qu'il est.
et en numéro 9, on retrouve quand même La Salle des Profs dont on vous parle ce soir, qui réalise 91 000 entrées, ce qui est quand même hyper cool pour un film allemand.
C'est une très très belle performance.
Qui revient, comme tu le disais, Alban, bredouille des Oscars, mais cœur sur ce film, dont on va vous parler dans quelques minutes.
Laurent, que sont allés voir les gens aujourd'hui à Paris, avant 14h, ça limite quand même pas mal le panel, mais on a envie de savoir ce qu'ils sont allés voir.
Et bien aussi étrange que cela puisse paraître, ils vont quand même un peu au cinéma. Le premier film qui est, moi, me surprend pas trop quand même, c'est le phénomène italien Il reste encore demain, donc vous avez certainement vu les affiches et entendu parler, qui fait 1075 entrées pour 16 copies, donc une belle moyenne de 76. Il n'y a pas énormément d'écrans, mais les gens se sont déplacés. En deuxième place, assez loin derrière Scandaleusement Vôtre, un autre film qui se passe il y a longtemps dans un pays étranger, qui fait 707 entrées, mais pour 19 copies, donc une moyenne de 37, ce qui est honnête, mais ce qui est finalement pas tant que ça, vu le nombre de copies. Enfin, en troisième place, Les Chroniques de Téhéran, dont on ne vous parle pas ce soir, mais peut-être la semaine prochaine, qui fait 491 entrées pour 10 copies, donc une moyenne supérieure de 49. Donc c'est un film qui a réussi à attirer les personnes. On est quand même sur un début plutôt indé, mais en même temps, il n'y a pas énormément de gros films qui sortent en ce moment. J'ai aussi envie de vous parler d'un film, Le Perdant de la Semaine, qui s'appelle The Mercy Tree, qui a l'air d'être un obscur film indépendant, déprimant, polonais, avec des gens qui ont l'air de vivre leur vie dans des campagnes en Pologne, avec des plans extrêmement lents et contemplatifs. Il y a 6 personnes qui se sont déplacées au Saint-André-des-Arts pour aller voir. Il fait 6 entrées pour une copie, donc une moyenne de 6.
Ce qui est pas mal.
Essayez peut-être de soutenir le cinéma polonais déprimant, même si vous n'êtes pas polonais, même si vous n'êtes pas déprimé.
Eh ben, merci beaucoup pour ces chiffres de long métrage, mais on va maintenant se concentrer sur un événement qui a lieu en ce moment, qui s'appelle la fête du court métrage, et dont nous recevons le parrain, monsieur Pablo Poli. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Encore une fois. Est-ce que vous pouvez un peu déjà nous dire qu'est-ce que c'est que la fête du court métrage ?
C'est une fête qui va se passer dans toute la France, dans le monde entier d'ailleurs, où on va pouvoir voir et découvrir des courts-métrages avec des réalisateurs et réalisatrices confirmés, d'autres qui débutent. Et c'est l'occasion de découvrir de nouveaux talents et de mettre à l'honneur le court-métrage, qui est un art qui est un petit peu, je trouve, mis un petit peu en dessous du long-métrage, alors que c'est tout aussi compliqué, voire même peut-être plus, de raconter une histoire en 15 minutes, c'est très difficile. Donc je suis le fier parrain de ce, non pas festival, mais de cette fête, et je suis plutôt heureux d'être là, donc merci beaucoup.
Romane.
Oui, bah du coup, pour juste quelques informations, donc ça a lieu du 20 au 26 mars, et n'hésitez pas à regarder sur le site internet, parce qu'il y a notamment plein de rencontres, des tables rondes qui sont organisées sur, par exemple, la musique et les courts-métrages, ou alors encore le cinéma inclusif, ça a l'air fort intéressant, donc n'hésitez pas à regarder ça. Moi, peut-être une première question, donc pour le parrain de cette fête, sur en fait ton rapport au court-métrage, qu'est-ce que le court-métrage pour toi permet de plus qu'un long-métrage? Qu'est-ce que par exemple le court-métrage peut faire que ne peut pas faire un long-métrage? Est-ce que en étant le parrain, tu as la réponse à cette question?
Et vous avez 4 heures.
Je sais pas si j'ai la réponse. Moi, je pense que le court-métrage te permet de te tromper et d'essayer des choses. Un long-métrage, il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a plus de chiffres que d'artistique, je trouve, en ce moment, et le court-métrage met un peu ça de côté et te permet d'essayer des choses, de voir peut-être si t'es fait pour ça, de voir si t'arrives à raconter une histoire en 15 minutes, c'est pas fastoche. Je trouve que c'est un terrain de jeu assez plaisant, quoi. Tu peux vraiment faire du film de genre, du film d'auteur, de la comédie, faire plein de choses sans avoir trop de comptes à rendre. Et ça me plaît.
Manon ?
Moi, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que le court-métrage en France, il est quand même assez soutenu, assez visibilisé, enfin beaucoup plus que dans d'autres pays. Le CNC met de l'argent et tout. Je voulais savoir, toi, de ton point de vue à toi intérieur, qui a fait plusieurs courts-métrages, j'imagine, comment tu le ressens? Est-ce que tu trouves que c'est une industrie qui est plutôt portée et porteuse en France ou pas?
Je trouve que c'est assez porté, oui. J'ai pas vraiment les comparatifs avec d'autres pays, mais moi j'ai fait plein de courts-métrages. Il y a plein de festivals qui accueillent les courts-métrages. Là, de la fête, je pense que ça va démultiplier la chose. Mais c'est vrai qu'on est assez soutenu en France. Meudon est un bon festival, je trouve. Il y a Clermont, merci, ouais. Qui a une très bonne sélection, je trouve, de manière générale. Après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est de l'art. Mais au moins, le court-métrage est mis en avant en France et il est assez respecté, je trouve. Ouais. Et souvent même demandé par les boîtes de production lors de faire un premier film. Est-ce que tu as fait un court-métrage? Et si ce n'est pas le cas, la boîte de production qui t'a signé peut te dire, tu vas réaliser un petit truc pour voir si tu as les épaules de tenir un long-métrage. Et j'aime bien cet accompagnement-là.
Laurent ?
Mais du coup, toi, en tant que comédien, est-ce que tu choisis tes courts-métrages de la même manière ? C'est probablement pas facile parce que c'est souvent des gens qui n'ont pas fait grand-chose ou qui sont des jeunes. Est-ce que c'est sur scénario ? Est-ce que c'est un feeling avec le réalisateur ? Quelle va être la différence en fait, de tes choix de courts-métrages par rapport à tes choix de longs ?
Je pense que j'aborde la chose de la même manière. Est-ce que l'histoire me parle ? Est-ce que le personnage me plaît ? Et après, c'est une rencontre avec le réalisateur ou la réalisatrice. Moi, j'ai besoin de ça. Mais je pense que je prends moins de risques en faisant un court-métrage qu'un long-métrage. financièrement et CSA. Et du coup, moi, ça me permet d'essayer plus de choses, de voir est-ce que dans le film d'auteur, je suis pas mauvais, est-ce que dans la comédie, est-ce que dans le film de genre, ça me permet d'essayer des choses. Donc, mon choix, moi, va être dirigé de la même manière, mais il y aura moins, peut-être, c'est pas responsabilité parce que ton degré d'engagement est le même, mais.
Une sorte de liberté peut-être que t'aurais pas en long.
Ouais, complètement, ouais. Bah déjà en long, faut arrêter aussi de croire que je choisis tous mes films. Je joue un peu avec les règles du jeu aussi. J'ai fait des films qui sont pas top et faut aussi manger, quoi. Tu vois, j'ai un chien à nourrir, c'est important. Mais le court-métrage, ouais, me permet de. Quel genre de chien? C'est un beau chien mélangé avec un berger australien.
Ah, magnifique.
Des preuves de photos après.
Et comment s'appelle-t-il? Pardon. Et après, on.
Il s'appelle Otto pour un film qui s'appelle Laura de Otto Preminger.
Eh bien, on salue Otto et on salue également Mouchou et Philomène pour pas faire de jaloux.
Mon chat est jaloux, du coup.
Oui, et ton chat est jaloux, pardon. Platon est jaloux.
Platon, ton chat?
Ouais,
fabuleux.
Mais c'est lui qui a choisi son prénom.
Je comprends.
Moi j'avais une question, est-ce que le court-métrage vous en avez fait en tant qu'acteur, est-ce que l'exercice en tant que réalisateur c'est quelque chose qui vous intéresse?
Beaucoup, ouais, je suis en train d'essayer d'écrire quelque chose et je me suis mis un peu dedans l'autre jour en faisant une vidéo de présentation pour la fête du court-métrage en disant que j'étais en train d'écrire, donc maintenant je suis un petit peu obligé. J'essaye, mais c'est pas facile et c'est là où je respecte énormément les scénaristes et les réalisateurs, de se confronter à ça, de créer un projet de toute pièce, et ça demande une énergie et une abnégation totale, et j'essaie de la trouver, mais j'espère que ça va arriver.
Une des particularités de cette fête du court-métrage, c'est que notamment on peut voir ces court-métrages au cinéma, ce qui est assez rare dans le. En fait, parce que généralement on les voit soit sur des plateformes, soit sur des chaînes de télé, ou alors en festival. Et là, ils sont mis à l'honneur dans des salles de cinéma, dans la beauté, la grandeur de la salle obscure. Le fait de pouvoir voir un court-métrage sur grand écran. Déjà, est-ce que vous en avez vu beaucoup? Est-ce que vous avez un souvenir d'un court-métrage que vous avez pu voir dans une salle et qui vous a laissé comme un souvenir marquant d'une expérience de cinéma?
J'en ai pas vu beaucoup au cinéma, non. J'ai été jury dans des festivals de court-métrages. Donc, c'est pas vraiment une salle de cinéma, mais c'est quand même un écran un peu
quand
plus
même,
malaise
ouais.
qu'un vulgaire iPad. Ouais. C'est quoi l'autre question?
Mais est-ce que dans ces projections-là, vous avez vu un court-métrage qui vous a laissé une.
Ouais, j'ai vu un court-métrage de Pixar qui s'appelle. Je sais plus du tout.
Mais il est super bien celui-là, je le connais. Il est vachement bien.
Je sais plus du tout. Mince.
De quoi ça parle?
C'est sur le temps. C'est un mec qui est en calèche, qui est un vieux monsieur avec son fils. Ils sont en calèche et ils sont horlogers.
On va retrouver le titre.
Comment ça s'appelle ce truc-là?
On va le retrouver. Il y a pas de souci.
Mais c'est fantastique. C'est un truc d'animation. Ouais, hein, mais j'ai pleuré et tout et réussir à me faire pleurer en 15 minutes, c'est balèze.
Les courts-métrages sont super. Suzanne m'a dit quelque chose en régie, mais malheureusement, je n'ai pas entendu. Donc, j'enchaîne avec la question suivante. Roman.
Mais tu parlais du champ de liberté que ça donne le court-métrage. Est-ce que justement, puisque tu as quand même joué dans un court-métrage qui est donc à l'honneur dans la fête du court-métrage qui s'appelle Duo, est-ce que tu as découvert des choses justement comme tu parlais de ce que ça te permettait de faire en tant qu'acteur, d'expérimenter des choses? Qu'est-ce que tu es allé expérimenter dans Duo?
À travers ce film, de pouvoir jouer deux personnages, de pouvoir jouer. C'est un film. Je sais pas trop ce que ça veut dire, le film de genre. C'est un petit peu. C'est pas très très clair encore dans ma tête. Mais il y a de ça là-dedans, de ces deux squatteurs qui vont arriver dans une maison qui est elle-même encore habitée par une autre version d'eux-mêmes. Une version, je pense, plus bourgeoise dans le film. Et ça, en long métrage, j'ai très envie de le faire. Mais est-ce que ça tient sur une heure et demie? Je suis pas sûr et certain. Donc pouvoir expérimenter ça, de se dire ok, je vais jouer deux personnages radicalement différents, mais on sait que c'est moi et on s'est voulu que ce soit moi. Putain, c'est bien ça. Vas-y, allons essayer ça quoi.
Avant de passer à la prochaine question, Rita voudrait rétablir une information.
Oui, donc le court-métrage s'appelle Borrowed Time et c'est par Andrew Coates et Lou Amoulage. Et c'est un western court-métrage de Pixar, effectivement, et ça a l'air incroyable.
Eh bien,
c'est ouf.
Il y a un lien Vimeo pour le voir directement sur Internet.
Et alors, foncez le voir. Manon ?
Non, juste pour préciser que Pixar, j'ai l'impression qu'en ce moment, ils sont dans ce truc de rediffuser avant leur... c'est une information. Des courts-métrages avant leur long-métrage au cinéma. Ouais. Ils réinstallent ce truc qui se faisait avant.
Ils le faisaient avant déjà, non?
Ouais, et ils avaient arrêté, comme beaucoup de distributeurs ont arrêté de... Enfin, on voit plus trop de courts-métrages avant les longs-métrages. Et là, Pixar, ils sont en train de se remettre dans ce...
Je trouve ça fabuleux.
Ouais.
Et Tarantino aussi, dans son cinéma à Los Angeles, si je dis pas de bêtises, avant chaque film, il passe soit un court-métrage, soit un dessin animé des Looney Tunes en lien avec le film. Voilà.
Ok. Génial. Bah, est-ce qu'il y a des dessins animés des Looney Tunes à la fête du court-métrage? Voilà, c'est ça la question que le public se pose, je pense.
Je sais pas du tout. Non, je pense pas. Je pense que c'est des choses qui sont pas forcément sorties encore et qui sont pas, qui ont besoin d'être mis en avant. Les Looney Tunes n'ont plus besoin d'être mis en avant, c'est partie de la culture générale. Et...
Mais en tout cas, ça me permet de rebondir là-dessus, sur cette extraordinaire diversité du court-métrage, de cette industrie qui est très compliquée. Mm-hmm. Comme tu as dit, c'est très compliqué à écrire, à faire, c'est aussi très compliqué à monter financièrement. Ouais. Donc c'est très chouette que ce genre d'initiative existe et permette de montrer en fait l'extraordinaire vivier de gens qui fabriquent des films, parce que souvent c'est 3-4 ans de travail pour 10 minutes de film, une semaine de tournage à peine. Donc c'est vraiment quelque chose dont on est très content de pouvoir en parler ce soir. Alban, est-ce que tu voulais réagir?
Non, pas forcément. Enfin, je veux bien réagir sur les courts-métrages qui m'ont plu dans cette série.
Eh bien, enchaîne.
Il y a eu La charge mentale des Mathias et Colas Rifkis avec Sébastien Chassagne et Louise Massin. Il y a eu le film Zoreille de Swan Arlo. Et il y a eu également Le bal, le premier court-métrage. Je ne sais pas si c'est le premier de Jean-Baptiste Durand, donc qu'on connaît pour Chien de la casse désormais.
Césarisé.
Et enfin, Duo. Le film de Marion Defer dans lequel vous jouez Pablo Poli avec Marianne Maître.
Ouais.
Roman.
Mais justement, pour rebondir sur Duo, tu disais que justement que tu interprétais deux personnages différents, mais qui en fait sont la même personne, mais avec encore une fois des nuances de personnalité. Comment est-ce que tu as abordé cette dualité-là? Est-ce que tu t'es dit qu'il fallait jouer, inventer deux personnages complètement différents, ou est-ce qu'il fallait faire justement le même personnage, mais avec comment est-ce que tu as abordé cette espèce d'ambivalence-là?
Je me suis vachement fié au texte. En fait, je pense que la langue raconte beaucoup, la manière dont on parle, et les deux étaient assez distincts quand même. Il y avait quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de... Je n'ai pas de personnalité, mais il n'a pas lu beaucoup de bouquins. Et l'autre, je pense qu'il avait un petit peu plus de culture. Donc moi, je me fie vachement au texte. Et après, le corps, tu le trouves assez facilement en fonction de tes costumes aussi. Tu ne marches pas de la même manière quand tu es en talonnette ou quand tu es en Vans.
Et de la coupe de cheveux, d'ailleurs.
Et la coupe de cheveux, ouais, c'est vrai, ouais. Alors ça, j'ai pas tout décidé, mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Et ouais, moi, je me fie beaucoup au texte, surtout. Et Marion Defer est avant tout une scénariste, là, c'était son premier court-métrage, pardon. Et donc, elle sait très, très bien écrire, cette nana.
Et est-ce qu'elle veut en faire un long-métrage, ou est-ce que...
De Duo, je sais pas du tout. Je pense pas, je vois pas comment ça peut tenir sur une heure et demie. Elle serait capable d'écrire un truc. Après, entre l'écriture, le tournage et le montage, il y a quand même un monde. Donc je sais pas trop, je sais qu'elle écrit un truc pour elle là, qui est plus de l'ordre du bouquin, mais le court-métrage et le long-métrage, je suis pas sûr.
Moi, je voulais revenir tout à l'heure. Tu disais que tu essayais d'écrire quelque chose. Ouais. Des fois, enfin, dans l'inconscient un peu collectif, le court-métrage, c'est juste on fait un court-métrage parce qu'on n'a pas réussi à faire un long-métrage, ou c'est un long-métrage raccourci, alors que c'est pas du tout ça. C'est des contraintes d'écriture qui sont particulières, et c'est comme tu le disais, peut-être parfois plus dur encore que d'écrire un long métrage. Toi, dans ton écriture du court métrage, qu'est-ce qui est compliqué pour toi? Qu'est-ce qui est ce sur quoi tu prends du plaisir? Ton retour d'expérience sur l'écriture?
Honnêtement, pour le moment, absolument tout est compliqué. mon choix d'actrice est très clair. Mes images sont assez claires, mais c'est les situations. Est-ce que j'en fais pas un petit peu trop? Est-ce qu'en 15 minutes, on arrivera à passer le message? Je sais pas, mais si non plus, mais à raconter l'histoire que j'ai envie de raconter. Je sais pas trop, les structures, je les connais pas trop d'écriture, donc je découvre un petit peu. Et là, pouvoir être parrain de ce truc-là, je vais pouvoir me mater des centaines de milliers de courts-métrages et me dire, ok, ça c'est bien, ça c'est un peu éclaté, je vais voler chez toi. Mais voilà, faut essayer, faut se lancer.
Il y a un petit cinéaste qui s'appelle Georges Méliès, par ailleurs, dans la sélection, je pense qu'il y a des petites choses à voir de ce côté.
Inconnu au bataillon, inconnu.
On s'est demandé si on allait faire une chronique Méliès surcotée ou pas, mais on a finalement décidé que l'histoire en avait déjà jugé.
Laurent, il voulait toujours la faire. Ouais,
ça. on dévie du coup un peu du court métrage. Donc ça fait du court métrage. Est-ce que Romain, tu peux nous rappeler les dates, les lieux, tout ça? Enfin, même si c'est dans toute la France,
oui,
et dans
sûr.
Le monde entier, dans 66 pays partenaires. Mais est-ce que tu peux nous rappeler les dates et où les gens peuvent voir ces courts-métrages?
Alors, donc, ça va être du 20 au 26 mars. Il y a donc 15 villes en France qui vont projeter des courts-métrages. À Paris, il y a pas mal de salles différentes. Moi, j'ai notamment vu, par exemple, le Majestic Bastille, entre autres. Il y en a beaucoup d'autres. Il faut tout voir sur le site.
Le site internet est très bien fait. Il y a toutes les informations, il y a toute la sélection, il y a tout ce que vous voulez.
Il y a même des... Voilà, en plus des rencontres, parce que j'ai parlé de ça tout à l'heure, il y a des ateliers aussi qui sont proposés. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Si on s'inscrit, ou je ne sais pas si on doit venir ou s'inscrire. Mais voilà, en tout cas, du 20 au 26 mars, et à voir les différents courts-métrages dans les différentes salles de Paris. Et d'ailleurs, petit rebond, mais moi je voulais parler d'un court-métrage que j'ai vu et que j'ai absolument adoré, qui s'appelle « Des filles enterrent leur vie ». Et dans ce court-métrage, il y a une énorme place à la nature et au côté en fait atmosphérique. C'est vraiment ça qui est mis au cœur de la narration, qui a une place énorme. Et personnellement, ça m'a beaucoup touchée. Et justement, c'est ce que je viens chercher un peu dans les court-métrages, cette espèce de d'atmosphère. C'est des court-métrages qui, en 15 minutes, arrivent à nous plonger dans un univers. Et du coup, je m'étais demandé si, pour toi, qu'est-ce que tu recherchais dans un court-métrage, si c'est avant tout un regard, une atmosphère, est-ce que c'est plutôt des acteurs, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que toi, tu as envie de... Qu'est-ce que tu attends, en fait, d'un court-métrage quand tu regardes ça?
Je pense que j'attends de la cohérence, de juste voir un acteur être bon, bah d'accord, t'es bon, mais le reste, t'es pas ouf. Que juste ce soit un film de chef opérateur, il y a peu de choses qui peuvent plus m'agacer que ça, moi. Ouais, de la cohérence, quoi. La marque des grands films, c'est que ce sont des grands films, quoi. Et que plus tu les regardes, plus t'as des nouvelles lectures et t'apprends de nouvelles choses. Un court-métrage, ça peut aussi être ça, mais il faut que le tout soit assez homogène, quoi. Et je trouve ça très, très difficile en 15 minutes d'arriver à trouver le bon ton, le bon rythme. C'est très compliqué. Il me faut un petit peu de cohérence, quoi. Que ce soit un film et pas juste une performance, une lumière, ça, je m'en fous. Il faut que ce soit un film.
Sachant que la définition du court-métrage en termes de temps peut aller jusqu'à presque une heure. Ouais. Donc il y a des court-métrages qui peuvent faire 2 minutes 20, comme on en voit dépelleter, et des court-métrages qui peuvent parfois faire 45, 50 minutes au moment à partir duquel on bascule dans le moyen-métrage. Et après le moyen-métrage, il y a le long-métrage, et le long-métrage dans lequel vous... Et moi, voilà, les transitions sont vraiment hyper clean. Ça. Le long-métrage qui s'appelle donc À la joie, dont on a déjà parlé la semaine dernière, et qui est en ce moment disponible sur Arte, dont on voulait un peu reparler, puisqu'on avait particulièrement aimé ce film de Jérôme Bonnel. Est-ce que maintenant tu peux nous rappeler de quoi parle le film?
Oui, ça parle de ton prénom dans le
Sam
film.
Sam et Vera.
Dedans, je...
Comment tu t'appelles?
Sam.
Sam et Vera.
Sam et Vera, oui.
Qui se rencontrent pendant le confinement. Elle est confinée dans l'appartement d'une amie, toi t'es son voisin. Et vous allez vivre une histoire d'amour extrêmement intense pendant ce confinement, confinés ensemble alors que vous étiez des étrangers au début du film. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé dans le film, c'est que je crois que je me suis rarement sentie aussi, avec les personnages d'un film, quoi. J'avais l'impression d'être avec eux dans cet appartement, et je trouve que le huis clos, il se fait vraiment, vraiment ressortir très fort dans ce film-là. Et j'aurais aimé savoir comment, en plateau, vous avez travaillé cet effet de... Alors forcément, c'est un décor unique, donc il y a un truc de promiscuité, mais je sais pas, je trouve qu'il y a autre chose qui fait qu'on est vraiment embarqué entre vous deux.
Jérôme Bonnel a une technique assez particulière, c'est la première fois que je fais ça. C'est que le matin, on arrivait une heure et demie avant tout le monde, Amel, Jérôme, Pascal, son chef opérateur, et moi. Et il nous disait juste, faites la scène d'aujourd'hui, mais comme vous le voulez. Okay. Si tu veux te lever, tu te lèves. Si tu veux aller au chiot, tu vas au chiot. Tu fais vraiment, vraiment tout ce que tu veux. Et comme ça, eux font leur découpage en fonction de ce que nous, on s'est imaginé. Et après, bon, après, ils modifient. Là, tu t'es levé, Pablo, ça sert à rien. C'est pas assez puissant, et si et ça. Mais du coup, nous, ça nous laissait une liberté monstrueuse avec Amel. Et du coup, on est forcément ensemble, vu que je vais réagir à ce que tu fais. On ne nous a pas demandé de rester à table. Donc si tu te lèves, mon regard va te suivre et mon corps va te suivre, et si et ça. Donc je pense qu'on est ça nous impose une espèce de connexion ultime, en fait, avec Amel, de forcément être ensemble et de jouer ensemble. Jérôme filmait ce que nous, on proposait, et modifiait pour que ce soit mieux, bien entendu. Mais ça partait de nous et de notre rapport à nous, quoi.
Ok, c'est intéressant.
Moi, c'est pour rebondir là-dessus, tu as répondu en partie là dans la réponse, mais je trouve, sans dévoiler trop l'intrigue du film ni les histoires de ton personnage, dans ce personnage de Sam, il y a aussi une forme de lâcher prise par rapport à sa zone d'ombre, pour pas trop en dévoiler. Est-ce que ce lâcher prise, c'est aussi une lâcher prise en termes de jeu, en termes de rencontre et en termes de partage avec Amel Sharif?
Ouais, complètement, ouais. Ouais, c'est un lâcher prise. Après, le texte est très précis et Jérôme est très à cheval sur son texte. Après, avec moi, il n'a pas trop le choix de me laisser un peu partir à droite à gauche. Mais il y a un lâcher prise, forcément. Ce Sam, il est extrêmement touchant, je trouve. C'est quelqu'un de très, très seul et qui va se donner corps et âme à cette femme. Il y a forcément un lâcher prise, mais il doit maîtriser, vu qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de choses, donc il y a une espèce de faux lâcher prise, je dirais.
D'accord.
Il essaie un petit peu de partir à droite à gauche tout en maîtrisant, parce que s'il se fait griller, son histoire d'amour tombe à l'eau, donc il faut être libre tout en maîtrisant sa liberté. C'est un peu complexe, et j'aime bien ce personnage là moi.
Mais justement, j'avais l'impression que précisément il s'autorisait à justement lâcher prise et à oublier presque ce voilà, ce qu'il était, parce qu'il était vraiment, mais ce qu'il animait au fond de lui. Mmh. Et c'est ce que j'ai trouvé beau aussi à travers le film, c'est-à-dire que même si à cette fin on a des révélations sur son personnage, je trouve que la manière dont il se donne à Vera et la manière dont elle le voit et dont il est perçu à travers ses yeux, c'est ce qu'il y a de plus touchant. Et c'est pour ça que je parlais de lâcher prise, justement, c'est parce qu'à travers elle, il arrive justement à évacuer toutes ces tensions et toutes ces...
Il n'y a plus de jugement, en fait. Il n'y a plus aucun jugement de sa part à elle. C'est une rencontre comme une autre et tu repars à... Pas, je dirais pas à zéro, mais je pense que tu pars à 100% en amour et tu perds des points petit à petit. Là, c'est le cas. Et Sam a été, je pense, blessé dans son enfance et blessé par la vie. Elle est un petit peu giflée par tout ça. Et là, cette femme lui donne la... Non pas la permission, mais la possibilité d'être lui pleinement. Et ça a l'air de lui plaire à cette femme. Donc, être soi... Il y a peu de choses plus belles en amour, je trouve, quand tu construis pas la chose et que t'es toi-même et que la personne t'aime pour ce que tu es. Bon, bah, on va voir où est-ce que ça va. Après, ça part un petit peu à droite, à gauche, mais l'honnêteté de ce mec-là, c'est grâce à elle qu'il l'a et je pense qu'il se plonge dedans, corps et âme, ouais.
Ouais. Moi, je trouve ça très intéressant parce qu'on parle beaucoup de liberté. C'est un peu la thématique qui est revenue le plus au sujet du court-métrage et puis là, en l'occurrence, de ce film, qui se passe pendant la pandémie, qui est peut-être un des moments où on a eu le moins de liberté individuelle. Ouais. Et je voulais savoir comment c'était de revisiter cette période un peu particulière. J'imagine que vous avez tourné après, mais combien de temps après? Est-ce qu'il y avait encore des restrictions? Et à quel point se replonger dans cette époque-là pour parler de liberté, ça a dû être un paradoxe monstrueux à gérer.
Ouais, ça l'est, mais il faut arriver à trouver... Et c'est là où je trouve que Jérôme est un très bon metteur en scène. C'est comment est-ce qu'on peut retrouver tout ce qui s'est passé pendant le Covid et la peur qu'on nous a mis... La presse nous a vraiment mis une pression monstrueuse. Quoi. Tous les jours, il y avait des chiffres de morts qui passaient tous les jours. Le monde s'est mis entre parenthèses. Ça fait un petit peu flipper. Donc, évoluer dans ce monde-là à travers la radio que lui a mis en scène et notre amour qui est la liberté totale, je trouve que c'est le bon paradoxe. Quoi. On est bloqué, mais si je suis dehors avec ce personnage-là, je suis, je pense, totalement perdu. Alors qu'en étant dans cette maison-là avec cette femme... Il y a quelque chose d'honnête et le Covid est présent, mais moi, c'est l'amour qui m'intéresse dans cette petite parenthèse qu'on a eue. Quoi.
Est-ce qu'il y avait une scène en particulier que tu apprendais le plus de jouer dans À la joie?
Un peu toutes, hein. Franchement, c'était pas fastoche. Il y a une scène en particulier, oui, la scène où on s'embrouille vraiment. Je sais pas trop quoi faire de ça, parce qu'il s'énerve un petit peu gratuitement, je pense. Bon, on a tous eu ça pendant le Covid, des moments de craquage et on sait pas trop pourquoi, mais aujourd'hui ça va pas du tout. Donc j'avais pas trop de raison de m'énerver, j'avais pas trop de raison de me perdre et j'ai eu du mal. Je pense qu'on l'a trouvé la scène, mais j'ai eu un petit peu de mal et ça me faisait un petit peu chier d'allumer Amel que j'aime énormément et ça faisait longtemps qu'on tournait. On a tourné dans la continuité, donc cette scène arrive un peu sur la fin.
Vous avez tourné combien de temps en tout?
Je sais pas du tout, je pense une vingtaine de jours, je pense, okay. Un truc comme ça.
Enfin, c'est assez conséquent.
Moi j'ai dû avoir 20 jours ou 15 jours, je sais pas. On tournait beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ouais, puisque pour rentrer un long métrage en 15 jours, enfin on parle souvent que... Ouais. Un court métrage peut durer
un an et demi.
10 jours de tournage et là, en effet, 15 jours pour un long,
bien,
c'est pas mal.
On a bien envoyé. Mais c'était super, ça met la barre assez haute. Tu arrives le matin et tu sais qu'aujourd'hui, tu vas jouer pendant 6 heures, va falloir envoyer. Moi, ça me plaît, quoi. Refaire la même phrase de 4 axes différents, en vrai. Bon, c'est cool, mais ça te challenge pas plus que ça, quoi. Une fois que tu l'as, ta phrase, tu l'as. Mais avoir toute une scène et la refaire 15-20 fois, ça m'excite, moi.
Super. Eh bien, merci infiniment. Ah non, Roman, pardon. Moi, j'enchaînais sur la fin, mais non, Roman a encore des choses à dire, donc je te donne la parole.
Juste une dernière question, mais pour revenir, comme faire le lien entre le court et le long métrage, est-ce que quand tu choisis des longs métrages, tu regardes les courts des réalisateurs ou réalisatrices?
Excellente question.
Bien sûr. Ah oui,
merci
oui,
de l'avoir
posé. C'est très, très important. Et quand il n'y en a pas, ça fait un petit peu flipper.
Ouais.
Non pas parce que t'as pas le talent d'en faire ou personne ne t'a fait confiance, mais du coup, je sais pas trop où est-ce que je vais. Et ta parole n'est pas forcément d'or. Tu peux me citer Amadeus autant que tu veux et Lubensky autant que tu veux. Je sais pas ce que tu vas faire, je sais pas trop où est-ce que tu vas. Donc il y a une histoire de confiance.
Ça sent le vécu un peu.
Non, ouais, bien sûr. Et puis j'ai fait plein d'erreurs aussi. Et j'ai fait des trucs où moi je me suis pas suffisamment engagé alors que le mec était beaucoup plus engagé que moi. Il faut communiquer dans la vie, il faut parler en amour, en amitié, il faut communiquer, quoi. Donc s'il n'y a pas de court-métrage, bah parlons-en. Mais c'est peut-être à nous les acteurs d'être plus impliqués et de voir un petit peu quel est ton univers. Tu peux pas me le montrer. Après, c'est une histoire de confiance. Et on fait des paris, hein, on fait des trucs, on sait pas. On sait pas trop ce qu'on fait, faut arrêter de mentir.
Donc si quelqu'un vous propose un film, c'est le moment de voir ses courts-métrages précédents, ou puisqu'ils seront probablement présents lors de la fête du court-métrage. Voilà, on relit tout à la fête du court-métrage, qui est effectivement cet événement dont on est très content de parler ce soir, qui a lieu donc du 20 au 26 mars prochain dans 66 pays différents dont le nôtre, qui en est l'organisateur principal, avec des villes partenaires. Et donc, pour voir des courts-métrages au cinéma et découvrir tout un tas de viviers de talents d'aujourd'hui, de demain et même d'hier, puisque le jeune Georges Méliès va peut-être encore donner quelque chose. Voilà, merci beaucoup Pablo Poli d'être venu nous parler de cette fête et également de ce film qu'on a apprécié, sur lequel on voulait revenir. Et donc, on enchaîne sur le programme de la journée, de la soirée, qui commence par la salle des profs. Bande-annonce. Ça fait des blagues en off, c'est pas sympa. La salle des profs, c'est donc un film de Ilcher Chatak qui a été nommé entre autres à l'Oscar du meilleur film étranger. C'est avec Léonie Benesch que nous connaissons, pour certains, pour avoir regardé la magnifique série Babylon Berlin où elle joue un superbe rôle et qui est une extraordinaire comédienne. Roman, la salle des profs, worum handelt es sich?
Tout à fait, Yuri, j'ai fait LV1 espagnol, donc je ne peux pas comprendre ce que tu viens de dire, mais on va dire que tu me demandes le pitch. Voilà. Ça raconte donc, ça suit la professeure Novak, qui est donc une prof de mathématiques dans un collège où des vols ont eu lieu un peu à répétition. Et donc la direction tente de trouver le coupable en passant par des biais pas forcément très éthiques et surtout pas très approuvés par la professeure Novak, donc, qui va tenter de trouver elle-même le coupable pour justement en finir avec cette histoire, sauf que en essayant de rétablir une forme de justice par elle-même et de protéger par la même occasion ses élèves, ça va déraper de plus en plus et la situation se retourne en quelque sorte un peu contre elle, voire beaucoup contre elle.
Elle se retrouve à faire partie du problème.
Exactement. C'est un film où je pense qu'il est utile d'emmener un punching ball parce que sinon vous broyez la main de votre voisin ou voisine sous le stress, parce que c'est vraiment le premier point réussi du film à mon sens, c'est la tension, c'est-à-dire que ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas été aussi stressée au cinéma face à un film, pas autant en empathie avec tout le monde, avec tous les personnages, même devant James Bond ou Mission Impossible, je pense que je n'ai pas été aussi stressée, et probablement parce que justement la situation est assez réaliste et très quotidienne en fait. Moi je trouve que le film est particulièrement bien écrit parce que justement il va partir d'une situation qui est hyper simple pour finalement décortiquer quelque chose de beaucoup plus large qui le dépasse complètement, à savoir un système et à savoir plus précisément l'académie et l'éducation en Allemagne dans les collège. Et donc on va parler de racisme banalisé, de manipulation, de problèmes de hiérarchie ou encore d'humiliation. Et en fait le film parle de tout ça en partant d'un événement qui semble encore une fois hyper banal, et c'est ça qui est très bien fait. Je trouve que c'est très complexe, c'est ambigu tout le temps. Je trouve que le film vraiment traite de tout ça avec énormément de nuances, puisqu'on ne sait jamais quelle est la vérité. Et d'ailleurs très rapidement, la question du film n'est plus de savoir qui a vraiment volé l'argent, on s'en fout complètement, puisque la question devient qu'est-ce que le système fait, comment il répond en fait à tout ça. Voilà, ensuite moi je trouve que le film, contrairement à Laurent qui va le dégommer dans quelques secondes, arrive très bien à nous faire rentrer dans la psychologie des personnages, notamment des enfants. Je trouve que moi j'étais complètement touchée et vraiment stressée pour eux. Nous avons le personnage d'Oscar qui a une trajectoire que je trouve hyper bien écrite, hyper bien dessinée, et tout en nuance encore une fois. Et ensuite on a celle de Madame Novak qu'on suit, et on se retrouve de plus en plus enfermée avec elle dans cette école. Moi je trouve qu'on devient complètement parano et claustrophobe. Elle est coincée de tous les côtés, on a juste envie de lui faire un câlin et de lui dire de démissionner, qu'il faut arrêter de faire ce métier parce que c'est trop compliqué. Donc voilà, j'adore aussi que le film se permette d'ailleurs des espèces d'indices sur sa vie intime, parce qu'il y a un parti pris assez fort qui est que c'est quand même du huis clos.
On est que dans le collège.
Voilà, donc on ne connaît pas du tout sa vie intime, mais il y a des petites scènes d'indices comme ça que moi je trouve très belles, notamment avec une autre professeure où en fait elle est là un petit peu dans le fond du plan à certains endroits, puis il y a une scène où elle se parle et ça nous laisse imaginer des choses. Moi j'ai imaginé qu'elle en fait c'était sa partenaire, mais c'est un autre film donc on ne va pas en parler. Mais pour autant, ça fait partie en fait de la psychologie du personnage, encore une fois, et de tout ce qui fait la complexité, la nuance du film. Et pour finir, quand même, un dernier point qui est un peu évident dans le film, c'est quand même la mise en scène. Parce que je trouve que c'est absolument parfait pour accompagner son propos, puisqu'il y a quelque chose de très symétrique, de très cadré.
Alors, il faut dire que c'est un format carré.
Complètement.
Ou de 4 tiers, en tout cas, c'est un format qui est très resserré, qui n'est pas le format cinéma qu'on a l'habitude de voir, qui est plutôt en large.
Exactement. Et en fait, qui accompagne cette espèce de claustrophobie, d'enfermement, etc. Et c'est quasiment de la photographie chorégraphie, c'est-à-dire qu'on a envie de mettre pause sur tous les plans, et en fait dans un sens où tout est tellement symétrique, tout est tellement cadré qu'on a envie de voir quand est-ce que ça va déraper, quand est-ce que ça va se dérégler, et c'est ce que la mise en scène fait et suit avec son personnage. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un film à voir. Après, attention au stress, emmenez encore une fois un petit truc à gratter pour ne pas faire saigner votre voisin.
Eh ben je n'aurais pas aimé être ton voisin dans cette salle de cinéma. Roman,
le reste du temps, il n'y a pas de problème.
il faut savoir le film, que le film a eu un énorme succès en Allemagne. Il est sorti il y a même presque un an déjà en Allemagne, et qu'il a eu un grand retentissement qui a créé énormément de débats sur le système éducatif, sur notamment tout un tas de choses. Et notamment, moi je suis pas censé donner mon avis ce soir, mais moi je trouve aussi le film plutôt réussi. Je suis un peu plus mitigé que toi, Roman, peut-être un peu moins mitigé que Laurent. C'est pour ça que je me permets de faire la Suisse. Je trouve que effectivement Léonie Benesch porte vraiment ce film, c'est-à-dire qu'elle oppose à ce système déshumanisant une forme d'humanisme en permanence, et c'est la collision des deux qui est absolument moi je trouve passionnante à regarder. Et Laurent, toi tu n'es pas d'accord.
Merci Laurent. Faut pas non plus être si violent que ça, c'est-à-dire que je trouve que le film a des qualités en fait, et tu les as données. Malheureusement je trouve ça un peu court en fait. C'est-à-dire que, en effet, le film a de très très surtout un très très bon début et une très très bonne manière de nous emmener dans cet univers-là qui est très solide et très bien fait. En termes entre guillemets de world building, parce que bon, ça n'a pas vraiment de sens dans ce cas-là, mais est très bien pensé, et on arrive vraiment à être dans le cœur en fait de cette vie de prof et de ce côté de huis clos presque, presque un peu claustro de tout ça. Le film démarre vraiment sur les chapeaux de roue et très violent très vite dès le début, avec des moments des moments de tension en fait très très réussis. Et malheureusement je trouve que tout ça se délite, et se délite parce que en fait le film cherche à mettre en avant son point de vue par des moments en fait extrêmement symboliques plutôt que d'essayer de faire vivre ses personnages. Et malheureusement je trouve qu'il y a en fait un moment dans le film, je dirais vers le milieu, les deux tiers, où moi ma suspension d'incrédulité en fait explose complètement parce qu'il se passe des trucs qui n'ont aucun sens et que tout le monde commence à faire n'importe quoi, et du coup j'ai un petit problème en fait alors que tout autour en fait est très réaliste, et qu'au contraire on a un vrai truc qui nous rattache à cette existence de prof, et cette existence de prof qui a pas l'air facile, surtout en Allemagne où ils ont l'air d'enseigner plein de trucs et tout. Enfin, ça a l'air assez compliqué pour des profs de...
Alors il parle en écriture inclusive, ce qui est très intéressant. Je vais pas me la péter, je comprends l'allemand, mais
il parle aussi allemand.
Et c'est marrant, ils utilisent des formules inclusives pour parler des élèves.
Comme
c'est
dire
hyper intéressant,
par exemple.
Oui, exactement, ouais, exactement, de la même manière.
Mais vraiment pour le coup, du coup je trouve que tout ce truc en fait, toute cette construction de réalisme, toute cette tension en fait retombe complètement parce qu'il se passe des trucs qui sont complètement fous en fait et qui veulent rien dire, et en fait qui ne servent en fait seulement à mettre en avant le propos du réalisateur et pas à essayer de faire vivre ces personnages, de les garder une cohérence en fait jusqu'à la fin.
Film à thèse, ce que tu es en train de
dire.
Peu
en fait, et même si je trouve que ce qu'il raconte, en plus je trouve que ce qu'il raconte en fait un petit peu léger par moment et va pas tout à fait assez loin, notamment je trouve tout le truc sur les élèves journalistes, qui je trouve dit des choses intéressantes et qui est plutôt bien fait, qui est assez malin, malheureusement va pas aussi loin de tout ce qui devrait aller. Je trouve que l'espèce d'image finale est un petit peu ridicule, et encore une fois il y a presque un quart d'heure à la fin
presque le cancre de Prévert, l'image finale
où il y a presque pas de dialogue, où il y a une espèce de truc qui finalement n'arrive plus à faire fonctionner ce film, et surtout n'arrive plus à faire fonctionner ces personnages qui pour moi cessent d'être ancrés dans la réalité, ce qui est du coup très difficile, alors que dans le fond je pense que le film aurait très bien pu être brillant s'il avait su appuyer là où il fallait, s'il avait su en fait chercher peut-être un côté un peu plus descriptif que vraiment juste un côté où on va vraiment en mettre des caisses sur le symbolisme des situations pour pouvoir essayer de prouver sa thèse tout le temps. Et je trouve ça un peu lourd. C'est dommage parce qu'il y a des qualités, il y a notamment Léonie Benesch que tu as dit qui est extraordinaire, il y a des belles images, il y a des bons moments, surtout au début, mais en fait malheureusement je trouve que le film retombe comme un soufflet, c'est dommage.
Mais on vous encourage quand même à voir La Salle des Profs, qui fait une très très belle
première
semaine.
Pas tant que ça quand même non plus. Hein. Détends-toi.
Franchement, il n'y a rien d'autre à voir, donc c'est pour ça qu'il faut y aller. Ou alors il faut aller voir les courts-métrages, mais ça n'est que la semaine prochaine. Donc avant les courts-métrages, il faut aller voir La Salle des Profs. On enchaîne sur l'autre film qui a bouleversé un autre pays voisin, qui est Il reste encore demain, bande-annonce.
Se vuoi sapere che c'hai in quella testa vuota, te. Sta zitta. Mannaggia. Tu pensa a portare i soldi a casa da una manastina incapace di tua madre.
Se vuoi sapere perché questo è il primo giorno via più di me.
Quello è uomo, no? Alla fine dei conti, te, hai una brava donna di casa.
Allora, Manon, di cosa parla il film?
Ça parle de Delia, qui est une mère de famille qui vit dans un quartier populaire de Rome à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En gros, on la suit dans son quotidien qui se partage globalement entre deux endroits. Son intérieur où elle essaie d'élever deux adolescents absolument insupportables, enfin deux garçons insupportables, et une adolescente qui va se marier. Elle doit s'occuper de son beau-père qui est alité, qui est hyper désagréable, son mari qui est alcoolique et violent. Et de temps en temps, on la suit à l'extérieur où elle fait plein de petits travaux pour gagner sa vie. Elle fait des rencontres, elle retrouve un ancien amant et un jour, elle va recevoir une lettre à son nom et elle semble vouloir un peu préparer son évasion prochaine. Avant de parler du film, il faut mettre un peu de contexte autour de ce film. Donc Delia, elle est interprétée par la réalisatrice du film elle-même qui s'appelle Paola Cortellesi et qui est une humoriste et une comédienne qui est très populaire en Italie. Le film a coïncidé avec une affaire de féminicide et donc il a tout un contexte qui fait qu'il a comptabilisé 5 millions d'entrées environ en Italie depuis sa sortie à l'automne dernier. Il est vu dans les écoles, il y a même la première ministre italienne qui n'est pas connue pour son progressisme et son féminisme qui en a parlé.
Enfin, plus que voilà, Barbie, hein, il l'a fait en Italie.
Voilà, et justement, ce film est souvent comparé à Barbie. Moi, je suis pas d'accord sur le fond, mais en tout cas, effectivement, en tant que phénomène, avant même d'être vu, effectivement, il y a quelque chose en commun. Si les gens ont trouvé que Barbie, c'était le féminisme pour les nuls, là, franchement, accrochez-vous, parce que c'est pire, et c'est même, franchement, parfois très maladroit. C'est très bien que ça fonctionne en Italie, qui est un pays très patriarcal, que ça ouvre certaines conversations, que ça offre aussi un peu une bouffée d'air frais au cinéma italien, qui sont, je crois, dans une situation un peu cata. Et en même temps, je trouve ça vraiment pas très rassurant sur l'état du féminisme en Italie, si ça, c'est un grand film féministe, quoi. Vraiment, je vois pas quelle représentation ça peut venir bouleverser. En fait, c'est juste une espèce de sorte de succession de sketchs qui viennent mettre en scène un peu une surenchère de violence conjugale qui est un peu caricaturale dans un noir et blanc qui est pas très beau. Oups. C'est assez pathos, c'est kitsch, enfin un peu kitsch à l'italienne, mais genre il y a des moments.
C'est kitsch.
Non, mais il y a la BO, genre des moments où elle vient mettre des espèces de morceaux de R&B, pop, anachronique, voilà, sur des images rétro en noir et blanc. Enfin, c'est très ringard. Mais à la rigueur, si c'était que ringard, basta.
Basta.
Le problème, c'est que c'est un peu dérangeant, en fait, parce que du coup, elle veut prendre un espèce de contre-pied. Enfin, je sais pas trop ce qu'elle veut faire, mais parfois, elle insère des moments de comédie musicale un peu burlesque dans son film, et en fait, elle choisit de le faire sur des scènes de violence conjugale. Donc, c'est hyper bizarre. Ces scènes de violence conjugale deviennent des sortes de valses entre eux deux. Enfin, c'est tout ça est un peu gênant. Il y a des montages aussi pour montrer comment ils se sont aimés et puis comment le quotidien les a usés et Cut lui devient genre hyper violent.
Donc c'est voilà. Bien connu que l'usure rend les hommes violents.
Voilà, c'est vraiment maladroit.
Et vous êtes sur Radio Campus Paris et pas sur une autre radio.
Je vais pas révéler le twist final.
C'est même pas
final.
Moi qui ai dit ça. Hein.
Mais je passe trop de temps avec toi, Laurent.
Mais juste voilà, je comprends pas en fait d'avoir fait ce film sur les violences conjugales pour faire en fait le twist final fait que c'est pas du tout un film sur les violences conjugales et c'est très bizarre et maladroit et voilà.
Rita.
C'est moi, avec
que
mon prénom.
Que penses-tu de Il Film ?
Il Film, non.
D'accord.
C'est tout le monde de la gauche à l'extrême droite avec Meloni a parlé de ce film en Italie. À partir du moment où j'ai vu que Giorgia Meloni a dit aux gens allez le voir, je me suis dit pas pour moi. Alors la réalisatrice, c'est vraiment leur Florence Foresti. Si on regarde, c'est la grande actrice comédienne humoriste. Elle est très connue pour faire des imitations. Elle avait une émission à la radio, à la télé. Enfin bref, elle est ultra connue. Pour moi, c'est ça qui fait qu'il y a eu 5 millions d'entrées à ce film. Ça n'est pas un film féministe. À aucun degré. En faisant du giganivellement par le bas.
Est-ce que on demande à ce film d'être. Est-ce que ce film a un. prétend avoir un propos féministe. Début, c'est ça la vraie question.
Déjà, moi j'aimerais dire que dès l'ouverture, dès la première claque qu'on voit, on sent que la claque est créée pour susciter du rire dans le public. Et à la première claque, il y a même eu des rires dans la salle où je l'ai vue, parce qu'en fait elle est là pour être humoristique, cette première claque. Voilà. Les autres claques, les autres coups seront dansés, comme le disait Manon. Et donc, en fait, les conséquences de toute cette violence ne sont jamais réelles. D'ailleurs, elle ne marque presque pas, et quand elle marque, c'est sur son corps, c'est pas sur son visage. Alors qu'il la claque, il lui donne des coups de poing, il la tire par les cheveux. Donc la violence dans ce film, elle est soit drôle, soit c'est des prises d'otages, à l'image de la dernière scène que je ne vais pas divulgâcher. Mais on a les 20 dernières minutes du film qui sont une prise d'otage avec un espèce de suspense pervers, avec un enjeu qui n'est pas clair. On ne comprend pas vers quoi le personnage central est en train de fuir. Et une fois qu'on sait vers quoi elle est allée fuir, non seulement on est déçu, ce qui encore une fois est pervers parce qu'on nous a mis une épée de Damoclès comme dans un film Marvel, en fait, où on a une espèce de suspense comme dans un thriller, alors qu'en fait il est question de violence conjugale. Mais en plus, on est déçu parce que le dénouement n'a rien à voir avec la lutte contre les violences exposées au départ comme la thèse du film. C'est-à-dire que dès le début, on nous dit on va vous parler de violence conjugale, et in fine, c'est un film qui incite à aller voter. Je ne spoil pas en disant ça, mais vous allez comprendre que c'est vraiment un des trucs les plus bêtes que j'ai pu voir de ma vie. Tu as parlé du noir et blanc. Manon est en train de mourir derrière. Mais...
c'est con parce que j'ai envie de savoir ce qu'elle pense.
L'image est absolument ignoble. En fait, je pense qu'ils ont tourné en couleur et qu'ils ont ensuite passé le film avec un filtre noir et blanc sur Final Cut Pro. Je pense sincèrement.
Ce qui est le cas de beaucoup de films qui sont aujourd'hui
en noir
et
blanc. Non, mais alors vraiment, Yuri, c'est moche, mais à un degré, c'est ignoble. Même la reconstitution des rues, on dirait qu'ils ont tourné ça aujourd'hui, ce qui est le cas de fait, parce que c'est un film, ce n'est pas un documentaire. Mais enfin, je pense qu'elle essaye de convoquer Fellini avec ses scènes de danse imaginées et son noir et blanc. Mais en fait, non. Par ailleurs, le ratio de l'écran change, on commence un peu carré, on finit en 16/9 quoi.
Mais c'est pour augmenter le passage du teint.
Non mais ça me rend ouf, c'est même pas que du nivellement par le bas ce film, j'ai l'impression de voir de l'anti-radicalité, et je demande même pas la radicalité féministe, c'est pas un essai, c'est pas une théorie, c'est un film de fiction en Italie qui plus est, mais c'est vraiment un féminisme empreint de naphtaline et de c'était mieux les féministes avant, maintenant que les féministes elles sont mieux quand elles sont mortes, c'est une thèse très connue, on s'en fout, mais voilà, c'est très mauvais. La seule sous-intrigue qui m'a plu et que je sauve, c'est la fille de Delia, le personnage principal, parce qu'on a l'impression qu'elle nous dit regardez, sa fille, elle va être sauvée par son homme, et après elle désamorce ça, et là je suis en mode ok, là je suis d'accord, là elle montre un système. Enfin bref, c'est à éviter, ce n'est pas un bon film, et du coup n'écoutez pas les conseils ciné de Giorgia Meloni finalement.
Ouais, ça c'est un, je pense que c'est n'écoutez pas les conseils tout court de Giorgia Meloni. Maintenant, si vous pensiez que mes imitations d'accent italien étaient scandaleuses, vous n'avez rien vu, car Ferrari de Michael Mann est avec Adam Driver et il fait aussi des imitations d'accent scandaleux.
Two objects cannot occupy the same point in space, the same moment in time. The corner races at you.
Laurent, de quoi parle ce film sur la course?
Buonasera a tutti. Non, bonsoir à tous. Oui, on parle de Ferrari. De quoi ça parle? Enzo Ferrari.
Oui, là, le pitch, on peut aller assez rapidement quand même.
Bah, Enzo Ferrari est un constructeur de voitures. Ça se passe dans les années, à la fin des années 50. Il est à un moment où sa compagnie est un peu, a du mal à gagner de l'argent, comme ça a été le cas dans à peu près toute sa carrière. Il en est le copropriétaire avec sa femme, avec laquelle ça se passe pas très bien, d'autant qu'en réalité, il a une maîtresse qu'il entretient avec qui il a eu un enfant caché.
Et globalement, c'est le cœur du film.
Et ça, le film parle en fait un peu de cette relation et essaye de tourner ça autour d'une course qui s'appelle le Mille Miglia, qui est une course un peu à l'ancienne où il fallait faire 1000 km en une journée dans des voitures de course.
Sur des routes départementales scandaleuses,
dans des cercueils roulants, c'était l'époque. Et évidemment, ça se passe pas forcément très bien. Tout doit en fait jouer autour de cette course pour qu'il puisse vendre plus de voitures et réussir à sauver son entreprise globalement. Michael Mann a mis environ 172 ans à faire ce film, il en a au moins 200 aujourd'hui, et tout ça se voit. Ça se voit parce que, en fait, on sent bien que le film a un petit peu de mal à choisir entre ce qu'il cherche à faire. Je pense que c'est un biopic en fait qui aimerait vraiment raconter l'histoire de Ferrari en tant que biopic, mais qui n'assume pas ça, qui du coup essaye de trouver un angle qu'il n'arrive pas à respecter lui-même parce qu'il ne peut pas s'empêcher de raconter les petites histoires personnelles de Ferrari. Donc globalement en fait, bah, on se fout un petit peu, en tout cas de son point de vue, on s'en fout un petit peu.
En tout cas, les histoires personnelles de Ferrari ne rentrent jamais vraiment en collision,
en plus,
sans mauvais jeu de mots,
plus, non,
avec
non,
les histoires de voitures. C'est-à-dire que les deux sont très très disparates.
Non, absolument aucun impact en fait, ou presque, sur sa vie professionnelle. Et du coup, on voit bien que En fait, le mélange des deux est un peu forcé par des moments qui sont parfois un peu gênants d'explications et de comment dire et de oui de ouais, on essaye de faire des rustines quoi pour essayer de dire ah non mais en fait ça avait un lien avec sa vie professionnelle et sa vie personnelle machin. Alors qu'en fait tout ça est un peu a l'air clairement artificiel et du coup bah le film qui fait quand même plus de deux heures a l'air de durer nettement plus longtemps malheureusement et en fait je pense n'arrive pas vraiment à faire ce qu'il était censé faire, c'est-à-dire faire un film un peu thriller, un peu haletant sur ce personnage quand même qui est un personnage assez spécial et surtout carrément en réalité carrément détestable et à moitié
très
taré.
Ouais.
Ce que le film essaye d'un peu de gommer, parce que c'est vrai qu'avoir un héros antipathique.
Il est très antipathique par ailleurs dans le film, je trouve. C'est quand même,
mais... Moi, je trouve qu'il essaie de le racheter un petit peu trop, ouais, à mon avis. Ouais. Mais du coup.
Parce qu'il a un fils qui est mort.
Oui, voilà, mais et puis surtout parce que en fait, il cherche la perfection et finalement, avec ses coureurs, il est très gentil alors que c'était probablement une ordure, mais bon. Et en fait, je trouve que le film réussit des choses quand même. Michael Mann a beau avoir plus de 80 ans, ça reste quand même quelqu'un qui sait un peu tenir une caméra. Donc il y a quand même des vrais moments qui sont bien filmés. Quand on s'intéresse à la course, quand on s'intéresse à filmer ces vieilles bagnoles qui vont vite, il y a quand même un truc un peu viscéral qui fonctionne. Je pense que Michael Mann est un très bon réalisateur de thriller un peu tendu et qu'en fait il n'arrive pas du tout à adapter son style en fait à cette histoire là parce que non seulement je pense que le scénario n'est pas conçu et n'est pas suffisamment bien construit pour ça et ce qui fait que bah on s'ennuie un peu et que peut-être que s'il avait, je sais pas, changé de scénariste au milieu, mais c'est ça qui, comme tu le disais, le scénariste est décédé au milieu du...
Pendant l'écriture du film, parce que l'écriture du film a pris 30 ans.
Ouais,
voilà. Mais le scénariste, il est mort il y a 5, 6, 10 ans, enfin il est vraiment...
Il veut faire ce film depuis...
C'est-à-dire que, clairement, il aurait peut-être fallu... Il aurait peut-être dû changer un peu son fusil d'épaule, sachant que le film a changé mille fois, il y a en fait une partie du film qui est devenue Le Mans 66.
Oui, c'est ça, tout ça est très bizarre.
Tout ça est très bizarre, il n'avait aucun sens. Résultat, c'est quand même un peu faible. Allez voir d'autres films de Michael Mann.
Ouais, parce qu'on est quand même des... Alors, Michael Mann, faut-il le rappeler, est un des grands réalisateurs américains des 30 dernières années. Rita.
C'est moi.
Tu vois, je crois qu'on partage tous à peu près ce sentiment de déception, en tout cas par rapport à Ferrari.
En fait, le truc, c'est que Alban a rappelé dans son introduction que c'était Michael Mann qui réalisait. Et je vous jure que j'avais oublié. Je vous jure que entre le moment où j'ai vu le film et maintenant, j'avais oublié. Je suis pas une grande connaisseuse de Michael Mann, mais Hit, c'est un de mes films préférés de l'histoire. C'est un des meilleurs films sur la masculinité, et je pense qu'ici, c'est quand même, encore une fois, une question de masculinité dans un milieu très masculin. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? Et maintenant que tu me dis que le scénariste est mort au milieu, je comprends beaucoup mieux, parce qu'on a trois films qui se battent en duel, donc en triel. On a une espèce de biopic raté à la Bohemian Rhapsody sur... ce mec qui a l'air ignoble dans la vraie vie,
Il chante pas, par contre.
Il chante pas, mais qu'est-ce qu'il parle mal? Et il parle comme ça, en anglais. Et je suis allée vérifier dans la VF, ils font pas les accents.
Ah, dommage.
Dommage ou heureusement.
Shailene Woodley, d'ailleurs, elle oublie qu'elle a un accent, une scène sur deux.
On sent qu'elle est gênée, Shailene Woodley, de le faire.
En même temps, si son personnage servait à quelque chose, peut-être qu'elle serait donnée
mais
du mal.
Mais quelle tristesse.
Et Penelope Cruz, elle fait un accent espagnol, italien, anglais. C'est très étrange aussi.
Mais en fait, je ne comprends pas. Donc après House of Gucci, je pense que Adam Driver va plus avoir le droit de rentrer sur le sol italien. Et pour moi, en fait, c'est un peu un film ouin-ouin dans le sens où ce personnage, à aucun moment, je n'avais envie qu'il se passe du bien pour lui, ni même du mal. En fait, j'en avais rien à faire de ce personnage et de tous les autres. Le seul personnage pour lequel j'en avais quelque chose à faire, c'est le petit garçon fan de voiture qui meurt. Ça, c'était horrible. J'ai pas compris. Et par ailleurs, cette scène, donc
la scène de la course finale.
La scène de la course finale, qui est la seule scène où il y a un peu de tension qui se passe, où le rythme
se relève. Il y a un enjeu, quoi. Et il y a un enjeu pas pour Ferrari, mais pour le coureur.
Il y a un enjeu sur cette scène-là qui, du coup, là, on sent quelque chose, même au niveau de la manière de filmer les voitures, ça devient un peu plus intéressant, même si c'est pas exactement ma passion dans la vie.
Alors, ils ont tourné à vitesse réelle les courses, ce qui est une des grandes. Enfin, Michael Mann a toujours été un grand expérimentateur technique. Là, il va filmer à vitesse réelle les courses, ce qui est assez étonnant.
Et c'est assez impressionnant. Il y a un crash et c'est très impressionnant. Et c'est une scène qui vraiment me prend au trip. Et donc là, tu te dis, oh, Michael Mann, il est parti. Donc, vraiment très très dommage. Il n'y a aucun personnage qui tient. Penelope Cruz, mais franchement, redonnez-lui des rôles. Elle est si belle et si forte et si incroyable. Et ça me saoule de l'avoir gaspillé. Et Shailene Woodley aussi, en vérité, que dans des rôles. Récemment, je l'ai vue dans... Bon, on s'en fiche. Mais en tout cas, c'est vraiment du gâchis, ce film. Et je ne comprends pas pourquoi et l'utilité. En fait, j'imagine qu'il a dû avoir une fascination pour ce personnage, un peu comme Nolan pour Oppenheimer. Ah. Et ensuite décider qu'il voulait faire un film sur ce mec-là. Mais je...
Sur le papier, c'est un personnage manien, endiable, dans le sens où c'est vraiment le professionnel qui a son code et dont le code va être percuté par les sentiments. Globalement, c'est la matrice qu'il y a dans tout un tas de ses films, dont Hit. Ouais. Et les deux ne rentrent jamais en collision. Ouais. Manon, toi, tu as eu la chance que n'ont pas eu ces gens-là. Pardon, tu
avais un truc à dire. Non, c'est bon, j'ai fini, I guess. T'as décidé pour moi.
Tu as eu la chance de voir ce film En Italie, sur grand écran,
pendant le Festival de Venise. Et je crois que c'était ma plus grosse attente du festival et du coup ma plus grosse déception. Oh. Moi, j'avais vraiment envie de voir genre du concret, de la mécanique, des voitures, des courses, l'Italie, tout ça.
Des gens qui transpirent dans le soleil.
Et en fait, tout est assez. Je trouve qu'en fait c'est assez plat, à part cette fameuse course qui est assez virtuose et qui arrive quand même à la fin. Sinon, le reste est plat et à la fois assez mélo, bizarre, enfin il y a un truc too much d'un côté, je pense que notamment à cause du personnage de Penélope Cruz, mais ça j'y reviendrai. Non, je trouve que sur le papier, l'angle était plutôt le bon. Il a choisi un moment charnière dans la vie d'Enzo où il est en crise, il est écartelé entre deux femmes, entre deux fils, un qui est vivant, un qui est mort, entre voilà, ses souvenirs de pilotes qui sont morts et puis son envie encore quand même de gagner une course et tout. C'était assez concentré, mais en fait, il ne s'est pas intéressé aux bons éléments de sa vie parce qu'en fait, sa vie amoureuse, on s'en carre. Et tout ça, je trouve, fait qu'on a assez de mal à capter ce mec-là qui, je pense, a été un mec très charismatique, un entrepreneur très charismatique, incarné par un acteur extrêmement charismatique, mais même si on se serait passé de l'accent italien, mais je sais pas, en fait il a une espèce de forme de neutralité, vous trouvez qu'il est un peu complaisant, qui fait que je trouve qu'en fait on n'arrive pas à comprendre ce qui passionne ce mec dans ce domaine, on comprend pas ce qui l'anime, et puis ouais, il y a trop de thématiques, le mariage, l'infidélité, le business, les courses de voiture, tout ça, ça délite en fait complètement son matériau qui était hyper intéressant. Et moi je me souviens que je l'ai vu dans la foulée, avant ou après, je sais plus, Maestro de Bradley Cooper, pour lequel je n'avais aucune attente. Et ben j'ai mille fois préféré Maestro parce que au moins, même s'il retrace toute la vie de Bernstein, il y a un angle, c'est une journée
difficile quand même, hein, beaucoup, ouais. Une journée avec des histoires compliquées et lourdes, hein, quoi.
Ouais, mais au moins je sais pas, Bradley Cooper, il avait ce qui l'intéressait, c'était le couple, c'était leur amour, leur arrangement. J'ai trouvé ça vachement plus intéressant. Et puis moi j'ai beaucoup de mal avec l'image de la femme dans ce film, peut-être dans le cinéma de Michael Mann en général, je sais pas, je suis pas experte, mais là vraiment il a deux personnages principaux féminins.
Au moins il les cogne pas quand même, c'est déjà pas mal.
C'est la maman et la putain, comme dans tous les films de garçons.
L'enfer, quoi. Sachant qu'elle, le personnage de Penélope Cruz, c'est quand même la cofondatrice de l'entreprise. Enfin, elle a un vrai rôle, machin. Et en fait, elle est soit une mère endeuillée qui a perdu. Voilà, c'est ça. Soit elle pleure parce qu'elle a perdu son fils, soit elle est genre complètement folle et irascible envers lui. Et puis de l'autre côté, il y a sa maîtresse qui attend une chose, c'est qu'il passe plus de temps avec elle. Et c'est tout, quoi. Et...
Ouais, mais tu comprends, Penélope Cruz, elle est italienne, c'est pour ça qu'elle a.
C'est ça.
Mais sachant que par ailleurs, la maison dans laquelle habite sa maîtresse, c'est pas dégueu, quoi. C'est pas un pavillon de banlieue, quoi. C'est
misérable.
Une villa dans la campagne italienne. On n'est pas non plus sur un truc. Bon.
Ouais, mais vraiment, je trouve que. Enfin, moi, c'est un truc qui me gêne globalement beaucoup souvent dans les biopics sur les hommes. Je trouve qu'Oppenheimer, c'était à peu près la même chose. Mais là, du coup, je sais pas, la frustration est double, quoi. Parce qu'il y avait deux personnages féminins qui auraient pu être forts. Et puis, j'avais une grosse attente sur ce film. Et franchement, mettre 30 ans pour faire ça, c'est quand même la loose, je trouve.
Mais c'est un peu la malédiction des films comme ça que des réalisateurs se traînent depuis 20 ans, qu'ils n'arrivent pas à monter, et puis quand ils arrivent à le monter, peut-être qu'ils ont un peu oublié pourquoi ils voulaient le faire à la base. Ouais. Pas tout simplement pour des questions d'âge, juste peut-être pour des questions de motivation artistique. C'est déjà la fin de cette émission un peu particulière, puisqu'on vous a parlé d'un tout un tas de trucs, dont la fête du court-métrage qui a lieu du 20 au 20 mars en France et dans 66 pays dans le monde. Vous pouvez retrouver tout le programme sur le site de la fête du court-métrage qu'on vous met également en description de ce podcast. On vous a ensuite parlé de long-métrage La salle des profs, Il reste encore demain et Ferrari qui est sur Prime Video ce dernier. Le seul qu'on vous conseille un peu par rapport à tout cela, c'est quand même La salle des profs. Donc si vous ne deviez voir qu'un film cette semaine, c'est peut-être celui-là, ou alors rattraper les autres bons films dont on vous a parlé, par exemple À la joie de Jérôme Bonnel, qui est disponible sur le site d'Arte. Voilà, maintenant je crois que j'ai tout dit, et je pense que c'est la fin de cette émission. Je ne sais pas ce qu'il y a après, mais je vous enjoins, je vous en conjure, restez sur Radio Campus Paris. Extérieur nuit, c'est fini.